398-4616, get in the mix, stir the batter, constant chatter on CKUT 90.3 FM. Did I miss something?
Vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Bon lundi matin, bonjour tout le monde. Comment vas-tu, Marc-André Jutras?
Buenos dias, good morning, bon dia a todos y todas.
Marc-André polyglotte, que j'aime ça, entendre ça ce matin.
Avec la polybase.
Quand tu sors tes belles
paroles.
En brésilien, portugais.
Hey, Stanley Clark. School Days, le vinyle, grand bassiste américain de jazz, de funk, de soul, name it. Super belle pochette, elle a du vécu, m'a gagné un peu, le disque est assez impeccable. C'est Stanley Clark qui est en train de faire du graffiti dans un métro de New York et est en train d'écrire sa gamme sur le mur en céramique et il y a des canettes à ses pieds. Il est en pantalon comme blanc, justement de capoeira. Mais pattes d'éléphant avec un chandail vert forêt style le vert du Brésil aussi. Puis il est en train de avec des canettes là qui ressemblent à des Krylon, il y a du jaune, du rouge. Puis il est en train d'écrire sa gamme et c'était la chanson Hot Fun like summer Hot Fun. On aime ça quand c'est chaud.
La belle musique d'été.
Caliente.
C'est l'été, on est heureux, tout le monde est content. Et surtout quand on écoute la belle musique de Stanley Clark.
Oui, on vous souhaite, là, ça va être le temps des vacances, c'est le temps d'aller faire des road trips, des petits voyages. Qui dit voyage dit souvent, on se promène à travers le Québec, sur les routes. Et, Nelson, t'es allé à Québec.
Je reviens tout juste d'un petit périple à Québec, à Lévis aussi, mais parlons de Québec.
OK. Québec.
Pour l'instant. Parce que oui, j'allais là, je me promenais, j'ai brunché avec la famille dans un bon restaurant vegan. Le Don, pour ceux qui veulent découvrir un bon restaurant vegan dans le Vieux-Québec. Mais on avait du temps à perdre, puis on se promenait, puis on est tombé par hasard dans la Place Royale. Bien, la Place Royale, qui est quand même un endroit très touristique. Il y a la vieille église. Et tout juste en face, il y a une exposition qui s'appelle le Musée du Bad Art, ou en anglais, le Museum of Bad Art, le MOBA. Donc, c'est une exposition organisée par l'événement Passage Insolite. En fait, Passage Insolite, c'est quoi? C'est de l'art public tout l'été dans la ville de Québec. Donc, c'est des sculptures, des installations artistiques assez inusitées, puis ça vaut le détour. Il y a plusieurs endroits, et c'est évidemment gratuit puisque c'est à l'extérieur. Et ici, ben, le MOBA, le Museum of Bad Art, c'est à l'intérieur, c'est dans une galerie, en fait. Et ça se passe tout l'été, c'est gratuit, c'est génial.
Ça, on aime ça.
Et c'est quoi exactement du bad art?
Ouais, qu'est-ce que t'entends par
Je vais vous décrire
art?
Ici, ce que je vais vous lire ce qui est écrit sur le site Internet. Trop mauvais pour être ignoré, l'exposition du MOBA offre un tour d'horizon d'une des collections d'art les plus insolites qui soit. Cette institution unique occupe une niche singulière du monde de l'art. L'art trop mauvais pour être ignoré. Les conservateurs du musée sélectionnent et célèbrent des œuvres aux intentions sérieuses, mais dont l'exécution aurait lamentablement échoué. Donc, c'est un endroit où des visiteurs du monde entier peuvent venir rire, s'esclaffer et apprécier de l'art ayant échoué de manière distinctive et souvent comique. C'est remarquable.
Moi, je trouve pas ça drôle.
Non, effectivement. C'est vrai que de l'extérieur, puis moi, j'avais à peu près la même attente, dans le sens que je rentre là pour rire du travail de gens. Puis surtout que là, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement donné leur accord pour avoir une de leurs œuvres qui est exposée dans un musée.
Comment ça? Explique-moi donc ça.
Ben, ce qui arrive, c'est que ce musée-là, qui nous vient de Boston, en fait, c'est des toiles qui ont été collectionnées, ramassées souvent dans les poubelles.
Aux ordures.
Dans les ordures de Boston ou dans les environs de Boston aux États-Unis. Et ben c'est ça, c'est des gens qui ramassaient des toiles, des œuvres d'art comme ça dans les poubelles. Et ben, soit dans la rue ou peut-être dans les brocantes, les sous-sols d'église, les ventes de garage et tout ça. Puis ben c'est ça, ça donne que là, une sélection, vraiment la crème de la crème du bad art, du mauvais art. Donc, c'est pas nécessairement mal exécuté. Des fois, c'est quand même des œuvres qui sont relativement bien exécutées. Il y a de la technique.
Mais le sujet peut être douteux.
Mais c'est juste très weird et très incompréhensible souvent. Et c'est souvent très figuratif. Donc, il y a vraiment très peu d'art abstrait là-dedans. Là. Et ça nous donne toutes sortes de toiles vraiment inusitées, incompréhensibles. C'est dans le weird du weird comme tu n'as jamais vu. Puis parfois, c'est très drôle, effectivement.
Dis-moi sans une là, qui t'a particulièrement touché ou fait rire. Ou...
Ben, il y en a une qui m'a vraiment fait rire. C'est celle c'est une toile d'une espèce d'une fée slash insecte. T'sais, dans le fond, un personnage ailé, okay. Comme semi-nu.
Fée clochette un peu.
Un genre de fée clochette, mais qui fait vraiment comme fée clochette, film d'horreur un peu, parce qu'avec les yeux, la tête beaucoup trop grosse, avec des yeux vraiment trop intenses. Puis, tu sais, la toile est encadrée, c'est un vieux cadre. Tu sais, la toile a du vécu, tu vois qu'elle a été ramassée dans les poubelles, clairement, il y a un trou dans la toile. Mais vraiment, la fée est comme toute maigrichonne avec une tête trop grosse, on voit les côtes, ça fait plus peur que n'importe quoi. Mais t'as pas l'impression que c'était voulu comme pour être épeurant, en fait.
Oh, c'était comme sérieux.
C'est ça qui est particulier. Il y a toutes sortes de choses très différentes. Il y a une toile qui est vraiment étrange, mais vraiment étrange. C'est, dans le fond, c'est une espèce de poupée bébé de... Dans le fond, un baby. Là,
en plastique.
En
là,
plastique.
Les poupées bébés. Ouais.
Donc, qui est peint. Donc, c'est vraiment une peinture. Mais en arrière-plan, comme en filigrane, on voit le visage d'un homme très réaliste. Puis sur son épaule, on voit le drapeau du Canada en filigrane.
Attends,
donc là, c'est vraiment... C'est dur à comprendre pourquoi le bébé.
Mais c'est-tu Pierre Trudeau ou...
Ben non, c'est pas clair.
Ou McDonald's, tu sais, on dirait que c'est le bonhomme du 5$, non?
Ben, je sais pas, honnêtement. Ouais, bizarre, je suis pas sûr, moi. C'est peut-être un autoportrait ou... Bref, il y a de la technique. Le visage en filigrane est vraiment très détaillé.
La poupée aussi est quand même bien faite.
Bébé, qui est comme nu, mais qui est très creepy, effectivement. Ensuite de ça, il y a aussi la reconstitution de l'événement de la place Tiananmen
dans les
années 80 en Chine. Et là, au lieu d'être...
Les tanks, puis là, il y a une personne qui est devant qui essaie d'empêcher les tanks. Mais au lieu d'être une... Ben, c'est une personne, mais elle a un drôle de chapeau.
Donc là, c'est la toile a été titrée « Un mariachi sur la place Tiananmen ». C'est d'un artiste anonyme, comme beaucoup de toiles qui sont exposées là-bas. Ce qui est vraiment particulier aussi, c'est que pour chaque toile, il y a toujours le petit carton, là, comme on appelle ça, le petit descriptif. Là.
Ouais.
Mais c'est que...
utilisée, mais ils ne peuvent pas le savoir s'ils ne connaissent pas l'artiste.
Ben, c'est ça.
Puis ni l'année de la production.
Exactement. Okay. Donc, ce qui fait que c'est une libre interprétation, une libre analyse à chaque fois, sur chaque toile.
Ouais.
Et c'est souvent humoristique. Ça accompagne super bien. Donc, il faut vraiment lire chacune des descriptions des petites fiches. Parce que ça vient vraiment
rehausser la toile, la blague.
Exactement.
Il y a comme une connotation.
Donc, on vient un peu.
On vient se bidonner de
l'artiste. On vient un peu rire de la toile. Par moments, c'est juste. C'est impossible de ne pas rire. Là. Puis, dans d'autres moments, c'est juste. On est très perplexe et inconfortable. Puis, c'est ça. On ne comprend pas trop ce qui se passe.
Mais pourtant, ma toile du Canada avec. Avec le premier ministre, je l'avais acheté, je l'avais détruite. Comment ça qu'elle est revenue? Il y a un petit côté, pas Jason, il y a un petit côté Chucky. Ah oui, la fille creepy. Et ça serait beau dans un film de Sam Raimi, il me semble, que la toile prenne vie, puis avec le trou dedans en plus. Là. Ouais, j'avoue que c'est...
Donc, c'est le musée du Bad Art. Ça se passe à Québec tout l'été. C'est dans le Vieux-Québec. Je vais vous donner l'adresse exacte. Là. C'est sur la rue Notre-Dame. Et c'est le... Donc, ça s'appelle la Maison Azur, située au 27 rue Notre-Dame, dans le Vieux-Québec. Et ça s'appelle le musée du Bad Art dans le cadre de Passage Insolite.
On peut-tu emmener la famille ou...
Je pense que oui. C'est pas... Oui. On peut amener la famille. Ouais. J'ai vu des enfants, puis ils
ne
comprenaient pas grand-chose. Ils trouvaient ça cocasse. Puis en passant, c'est gratuit aussi.
Oh, ça, c'est très important. C'est
avec
très
contribution
bien.
Volontaire. C'est vraiment une belle exposition. Ouais. C'est vraiment dans le contexte de... comme on se croirait vraiment dans un musée. Là.
Mm-hmm.
Donc, c'est pas du tout...
Ils sont encadrés. C'est...
Oui, avec un bel éclairage. Ouais. Des beaux murs blancs partout. Donc, c'est vraiment un bel espace.
Parfait.
Et pour ça, c'est très professionnel. Mais ça vaut le détour, vraiment.
OK. Ben, on s'en va. Je vais à Québec cet été par hasard. On va peut-être se croiser là-bas. Et je vais sûrement arrêter à la Place Royale voir cette exposition-là. En parlant d'exposition, moi aussi, je suis allé en voir une, mais je n'ai pas été très loin. Je suis allé à Montréal, dans le quartier des spectacles. C'est une exposition qui a commencé le 8 avril et va se terminer le 7 août 2022. C'est dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal. C'est à la maison du festival. En fait, c'est en haut de l'Astral, là, dans le fond.
Ouais,
là, c'est
sur Sainte-Catherine.
Sur Sainte-Catherine, exactement. Ça s'appelle tout simplement « Stranger Than Kindness », l'exposition de Nick Cave. Nick Cave, c'est le musicien qu'on connaît, Nick Cave and the Bad Seed. Et ils ont décidé de faire, c'est une première nord-américaine d'une exposition qui avait été présentée auparavant à Copenhague, au Danemark, puis qui a eu quand même là, beaucoup de succès. Et là, c'est une incursion inusitée dans le monde créatif du musicien, raconteur, icône culturelle d'un artiste. Ça regroupe 300 objets qui ont soit appartenu, soit été créé ou collectionné par Nick Cave au cours de ses 6 décennies de vie artistique et personnelle à travers une série d'installations de grande envergure. Quand ils disent grande envergure, Nick Cave, à un moment donné, est allé à Berlin pour une immersion, si tu veux, culturelle. Et il avait pris beaucoup de photos de la pièce dans laquelle il habitait. Il y avait beaucoup d'images, d'icônes religieuses, d'objets. Et à partir de ces photos-là, ils ont recréé la scène dans l'exposition. Ça, c'en est une. Un autre de ces studios bureaux slash, où est-ce qu'il y a des tonnes de livres, des magazines, des instruments de musique, un piano, un drum, tout ça. À partir, encore là, tu as les photos de la pièce où est-ce qu'elle est aux États-Unis ou à l'endroit, et ils l'ont recréé dans l'exposition. Okay. C'est super, super intéressant. Moi, je connaissais pas beaucoup Nick Cave.
Ouais, c'est ça. Toi, es-tu un fan de sa musique?
Non, je pourrais pas dire. C'est un hasard. J'étais curieux d'aller la voir et on a eu l'opportunité, moi et ma copine, d'y aller. Et je ne regrette pas. Je vous la recommande. Même si vous connaissez pas l'univers de Nick Cave, je le connaissais pas. C'est fascinant. On peut toucher pas à tout, mais c'est ça, il y a des pièces, il y a des choses qui sont comme là. Admettons, Nick Cave lit beaucoup. Il y a des éditions de Jean-Paul Sartre qui a lu. Ben, le livre est là. Il n'est pas attaché, il n'est pas collé. C'est pas juste une fausse couverture. C'est vraiment un livre. Fait que c'est puis des images ramassées. Comme je dis, les icônes religieuses, il y a comme une obsession. Il y a un buste de Elvis Presley, un petit peu kitsch, là, tu sais, un peu Memphis Graceland là, que tu achètes en touriste. Là.
Ouais, ouais.
Fait qu'il y a des objets assez, assez intrigants. Comment que l'exposition est montée, c'est fascinant. Je veux pas vous vendre de punch. C'est sûr, la musique, elle a une grande place. Beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Moi, je savais pas qu'il jouait dans un groupe punk. Il vient de l'Australie, Nick Cave. Ouais. Fait qu'il avait, il jouait dans des groupes. Il a joué dans... Premièrement, avant tout ça, il était dans une chorale à l'école.
OK.
Puis après ça, il a formé un groupe. Après ça, un groupe un peu plus rock and roll, un petit peu plus punk. Et il y a des images d'archives, des vidéos, du monde avec qui se naît, qui faisait le visuel, beaucoup d'affiches, de spectacles, tout ça. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant.
Il y avait un groupe qui est pas... Il y avait Grinderman, je me trompe pas, ça se peut-tu? Dans les années comme début 2000, il y avait un projet parallèle.
Ah, OK. Je ne connaissais pas son projet personnel. Là. Tu me poses une colle, mon ami.
Non, mais c'était pas une colle, c'était vraiment juste.
Ouais, mais c'est comme son premier groupe, ça me disait pas grand-chose. C'était connu là-bas. En Australie, mais ça n'avait pas eu de
Mais lui, c'est vrai qu'en Australie, ça m'a été dit par des Australiens que c'est vraiment. C'est comme leur Johnny Hallyday. Oui,
c'est, ouais, ouais, c'est une icône. Là.
C'est vraiment une légende vivante là, ouais. Qui a eu beaucoup de succès dans les années 80 et 90.
Ouais.
Puis que bon, il est encore vivant. Puis il fait encore de la musique.
Puis dans le fond, Nick Cave and the Bad Seed, c'est Nick Cave. Bad Seed, c'est les musiciens qui décident d'engager pour tel projet, soit en studio, soit en spectacle. Il y a des entrevues avec des collaborateurs passés. Certains ont des bonnes expériences avec lui, d'autres moins bonnes. D'autres sont plus amers, d'autres sont encore bien amis avec lui. Fait que c'est vraiment spécial. Il y a pas, je sais pas, je le connais pas, mais ça semble assez intense travailler avec lui. Là.
Puis est-ce qu'on peut entendre de sa musique dans l'exposition?
Oui, on en, puis des extraits de concerts, puis tout ça, des poèmes, beaucoup de choses écrites. Il y a un courriel qui est vraiment drôle de Leonard Cohen. Puis là, je vais dire une date, là, mais admettons 1992, il s'envoie un email, puis c'est très bref. Là, c'est des choses que tu dis pourquoi c'est là. Parce que Nick Cave, il a tout le temps trippé sur Leonard Cohen.
Okay.
Puis quand tu vas dans une des pièces, il y a des vinyles de Leonard Cohen. Il y a comme une table tournante, puis il y a des vinyles, dont un de Leonard Cohen. Fait que c'est. Il y a comme un lien aussi avec Montréal, je trouve. Je sais pas pourquoi.
Mais c'est quand même particulier que cette exposition-là soit ici. Ben, dans le sens que.
Oui, parce qu'elle on dirait qu'elle n'a pas fait l'Amérique du Nord encore. Là. Je sais pas si c'est à cause de la pandémie ou tout ça, là, mais en tout cas, le commissaire qui a ramassé tous ces objets insolites, c'est vraiment... C'est comme si tu rentrais chez quelqu'un, honnêtement.
Ouais.
Les pièces, tout ça. Puis il dessine. Il a un talent, il dessine. Puis des fois, il faisait presque des synopsis ou des espèces de scénarios pour des films. Je sais pas s'ils ont été produits ou non, mais tu vois là, des machines à écrire, une collection de machines à écrire, beaucoup d'objets inusités. C'est très fascinant. Fait que ça se passe en ce moment même dans le quartier des spectacles. C'est jusqu'au 7 août. Dans le fond, c'est Maison du Festival, je pense que ça s'appelle tout simplement.
Donc, on a encore le temps, tout le mois de juillet, pour y aller.
Exactement.
Puis même si vous n'êtes pas fan de Nick Cave, ça
vous allez adorer. Vous allez adorer. Ça touche à tout. Tous les arts, peut-être moins le théâtre, là, mais tout le reste, il y a l'écriture, il y a la musique, il y a le scénario, il y a le visuel. Ces dessins sont incroyables. Là, j'essaie juste de retrouver le fameux email parce qu'on peut prendre des photos, on peut même se filmer là, dans l'exposition comme beaucoup de gens font. Ils aiment les chats, fait que ma blonde était très contente. Il y a une bibliothèque, c'est drôle, je ne sais pas si... Il y a tellement de livres qui sont allés chercher juste pour nous montrer que c'est un tripeux de littérature, on va dire, internationale et tout ça. Il y a des photos de lui avec ses enfants. Il y a des dessins qu'il a fait. Et là, j'essaie juste de retrouver ce fameux courriel-là qui est presque une... Je dirais pas une blague, mais c'est ça veut... Je l'ai pas sous la main, là, mais ça veut rien dire. C'est comme genre, « Hey, salut Nelson. Hey, salut Marc.
C'est ciao,
see you. » C'est comme, ouais, on garde contact, là, mais c'est,
ouais.
C'est du...
On se dit allô.
On se dit allô, c'est
à
ça.
À distance. Donc, Nick Cave, ben, le nom de l'expo, c'est pas Nick Cave, c'est autre chose, si j'oublie le nom de l'expo.
Je vais te le redire à l'instant, si je le retrouve. Je ne le retrouverai pas naturellement. Parce oui. que...
L'exposition de Nick Cave sur Google, vous allez trouver la réponse.
C'est Nick Cave, c'est Stranger Than Kindness.
OK. À voir. Pour ceux qui ne connaissent pas la musique, mais en fait, c'est dur à décrire hein, parce que Nick Cave s'est un peu promené hein, dans les styles musicaux.
Exact.
À la base, c'est surtout rock,
ouais.
Mais il a fait beaucoup de chansons, ballades,
ouais.
Tranquilles aussi. Mais bon, c'est... Puis dans le rock aussi, même, il y a différentes phases. Moi, j'ai bien aimé le plus vieux son, la plus vieille phase qui est un peu plus... comment décrire ça? Rock un peu...
planant un peu. Là.
Un peu d'horreur, mais okay, un ouais. peu... ambiance sombre. Il y a la fameuse chanson Red Right Hand qui est vraiment très bonne. On écoutera ça une autre fois à l'émission. On en mettra...
Ouais, là, on va changer d'univers musical. Ça va rien à voir que Nick Cave. Mais vous allez voir, ça rock pareil.
Vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. C'est l'été. On écoute du surf rock.
Parce qu'on rêve à surfer sur les vagues.
Sur les rocks.
Sur les rocks.
Ça sent la crème solaire.
Oui, Coppertone.
Ça sent la plage. Oui, c'était bon ça. C'était qui ça, Marc-André?
Ça, c'est une compilation parue sur MCA Records. Ça s'appelle tout simplement Revenge of the Surf Instrumentals. Fait que là, c'est une compilation. T'as les Surferies, t'as les Venture, t'as les Rumblers, t'as les Shantai. Puis là, qu'est-ce qu'on a entendu? C'est... La tune s'appelle The Victor.
OK.
Comme ton fils.
Oui.
Et c'est Dick Dale and the Deltones.
Le fameux Dick Dale.
Oui.
Qui, sauf erreur, c'est pas lui qui aurait comme inventé le surf rock?
Oui, monsieur. C'est lui, pas mal lui, oui.
OK.
Puis là, en tout cas, il l'a popularisé. Tu sais, il y était plusieurs, là, tu sais, à ce moment-là. Mais disons que lui, il a mis sa touche.
Puis moi, dans la dernière année, j'ai découvert le surf rock japonais.
Oh, monsieur.
Notamment grâce au groupe montréalais Teke Teke.
Oui.
Qu'on avait vu en spectacle l'année passée au Festival de jazz. Puis on avait compris que le groupe s'appelle Teke Teke en lien avec justement le son de guitare du surf rock.
Ah, le tic tic
tic tic tic tic.
Ah, OK.
Puis qui ont nommé le nom du groupe par rapport à ça.
Groupe qu'on aime bien, qui tourne beaucoup, là, qui ont commencé à faire des spectacles et tout.
Oui, c'est vrai.
Ouais. On aimerait ça les revoir d'ailleurs.
Oui, oui, oui.
Sous peu.
Puis là, c'est ça, je me suis dit, c'est quoi le nom de l'artiste japonais dans les années 60-70 qui était très populaire à l'époque? C'est un nom japonais que je ne peux pas retenir, malheureusement. Vous allez pouvoir trouver ça, mais c'est vraiment une légende vivante. Le monsieur est encore vivant.
Oui.
Puis c'est vraiment, c'est comme le Dick Dale
Du Japon, hein.
Du Japon.
Qui inspiration, est... ouais. Hey, en parlant d'inspiration, autopsie d'un imposteur. Là, on tombe dans la bande dessinée avec Thomas Campi et Vincent Zabu. Comment trouver sa place quand on est certain de ne pas la mériter? Demande aux passants de Bruxelles, demande aux visiteurs de l'Expo universelle, aux badauds de la capitale, demande-leur s'ils ont des nouvelles de Louis Dansart, ce petit provincial convaincu qu'il allait réussir dans la vie grâce à ses études de droit. Demande à la propriétaire du petit immeuble où il louait sa chambre s'il a aimé Camille, sa belle voisine de palier, qui lui offrait son corps quand tous les autres le payaient. Et elle te répondra oui. Il l'aimait, quoique la suite des événements puisse amener à penser 3 petits points. Super belle bande dessinée, parue sur Delcourt. Juste la pochette qui est d'un rouge fuchsia dans un bal masqué où est-ce que tout le monde a des masques animaliers. Il y a notre jeune personnage qui est pris dans le milieu et qui se sent comme pointé du doigt, comme si c'était lui l'imposteur. En gros, ce personnage-là, ça se passe à Bruxelles dans le temps de l'Expo universelle. Fait que c'est dans les années... je vais pas dire trop de niaiserie. C'est, en tout cas, ça date là, dans les années 50 à peu près, si je me trompe pas. Et dans le fond, c'est l'exode des jeunes de la campagne qui vont en ville et qui pensent que... Bon, ils vont aller étudier naturellement et qui pensent sortir de son statut social. Surtout qu'en Europe, à ouais. cette époque-là, c'était difficile, puis tout ça. Fait que c'est ce qu'il fait, mais il se sent toujours pas à sa place. Il y a un petit côté très Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick.
Ah ouais?
Parce qu'il va dans un bal, une espèce de bal masqué, une espèce de fête privée, où est-ce qu'il se déguise, il met un masque et il rencontre des gens, peut-être que lui, il n'est pas à sa place. C'est pour ça qu'il sent tout le temps un peu l'imposteur. Il pense que son odeur de venant de la campagne va le trahir, ses vêtements, comment il est habillé. Il va chez un tailleur, se faire faire un bel habit, puis même le tailleur dit à la vendeuse, il dit, tu vois pas comment il est habillé, il n'y a pas d'argent pour nos vêtements, tout ça. Fait que, c'est comme le garçon qui est comme pris dans un... Dans une situation là, compliquée, fait qu'il faut qu'il gagne des sous. Fait qu'il devient comme à cette fête du bal masqué-là, invité par sa voisine, elle l'emmène à cet endroit-là et il devient un petit peu un serveur ou serviteur. Et là, ça dégénère. Super belle bande dessinée parue sur Delcourt, Autopsie d'un imposteur.
Ça dégénère comme dans le sens de film de peur?
Film de peur, film de fesses, film de... Un peu, ben, Eyes Wide Shut.
Ah, OK.
C'est Kubrick. Là, le côté, tu sais...
Érotico,
masque,
étrange,
occulte, secte, tout ce côté-là. Ça se passe dans le temps de l'exposition universelle de Bruxelles, là, avec leur espèce d'atome, le monolithe. Là. Nous, au Québec, à Montréal, on a la biosphère, là, mais eux, c'était comme une espèce d'atome. Là, si
une molécule.
Bien, une molécule, ouais. C'est ça. Mais là, j'essaie de retrouver l'année exacte, mais ils disent pas. Ouais, c'est ça, 58, là, aux alentours de 1958. Fait que le dessin, la ligne claire, très beau. Deux auteurs que je ne connaissais pas, que je vous recommande fortement.
Autopsie d'un imposteur. Merci, Marc-André. On va aller tout de suite en pause. On vous revient avec plein de bonne musique et plein d'autres choses.
À la suite.
À tantôt.
CKUT Radio.
Sound waves in the air.
CKUT
Montreal, Canada.
CKUT.
On est de retour au lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Mon nom est Nelson, je suis avec Marc-André. Et au retour de la pause, en fait, avant la pause, on a parlé d'une BD qui s'appelait Autopsie d'un imposteur. Et maintenant, on va parler de cinéma.
De cinéma. Et qu'est-ce qui attire plus les gens au cinéma l'été que des super-héros?
Pas grand-chose, hein, parce que les super-héros ont vraiment monopolisé tout l'espace de cinéma. C'est incroyable. Mais sinon, non, on aime beaucoup les gros films d'action, les gros films de science-fiction.
Oui, monsieur.
Beaucoup d'effets spéciaux. On aime
tout.
Ouais, l'été, on veut y aller léger.
Léger. Mais là, il y a des films qui sont attendus pour 2022, pour l'été qui s'en vient. Et il y a une mode aussi depuis quelques années, à part les super-héros, les biopics.
Oui.
Les films de personnalités connues ou moins connues, mortes ou vivantes.
Oui.
Tu sais, Aline, exemple.
Aline qui est...
Aline au Pays des Merveilles.
Aline Dion.
Oui. Mais sérieusement, ben, il y a déjà eu le film qui, sur Elvis qui est sorti.
Qui est déjà sorti,
qui
déjà?
Qui est déjà sorti, oui.
Ça, c'est tout nouveau, par contre. Là. Ça fait pas longtemps. Baz Luhrmann.
Oui, avec Tom Hanks qui joue The Colonel.
Oui,
ça,
qui était comme le gérant de...
d'Elvis.
Elvis.
Mais que plus on apprend sur lui, ben, peut-être pas dans le film, parce que ça a été autorisé par la famille Presley, là, les acquis de droit. Mais moi, j'ai lu dans le Rock and Folk, ma revue préférée française, qui est 100 fois meilleure que le Rolling Stone, qui montre les côtés... je vais en reparler du colonel.
Ah, okay. Mais est-ce que tu as vu le film, Elvis?
Non, j'ai pas vu le film, mais je veux le voir, c'est sûr.
Ça m'intéresse quand même.
Oui.
Je serais curieux de voir l'importance qu'ils accordent aux influences.
Oui, du King, oui.
De Elvis.
Son entourage.
Oui, c'est ça. OK.
Oui, oui. Il y a ça. Fait que ça s'appelle tout simplement... Aline, ça serait drôle. Non, ça s'appelle tout simplement Elvis. Elvis.
C'est bon. Ouais.
Tom Parker, Tom Hanks, ça va être ça, qui est méconnaissable. C'est juste pour ça, j'ai envie de le voir. Il y a Maestro, fait avec... c'est Bradley Cooper qui se transforme en Leonard Bernstein. Je te dis Leonard Bernstein, excuse mon Bernstein. Ça te dit quoi?
Ça me dit absolument rien, Marc-André.
Ça va être réalisé par un certain Steven Spielberg. C'est la vie du chef d'orchestre, du compositeur, du pianiste, de l'auteur de la musique, de la comédie musicale West Side... Stories.
OK.
Ben, il y a l'original là, qui a été fait dans les années, on va dire, 50.
Ouais.
Et là, il y a le reboot, la nouvelle mouture faite par Steven Spielberg.
Ouais.
Fait que là, Steven Spielberg, j'imagine, en faisant le film... Il s'est intéressé, il essaie, tu sais, de reproduire un peu la recette gagnante, soit la musique, la trame narrative, qui est dans le fond Roméo et Juliette, là, c'est deux bandes rivales. Là.
OK, ouais.
Anyway, moi je l'ai vu, j'ai bien aimé ça, mais j'ai pas vu ce qu'ils vont appeler Maestro, qui va être la vie du compositeur de cette musique-là.
Bon.
Fait que ça peut être très, très intéressant. Ben, il y en a d'autres. Une qui a l'air spéciale, c'est que, tu sais, un petit personnage, là, tu sais, on dit les films qui ont marché gros, là, si on recule un peu dans le temps, il y avait les super-héros, mais tu sais, il y avait une espèce de jeune magicien avec des lunettes puis une baguette magique.
Oui, Alain Choquette.
Alain Choquette, oui. Mesmer.
Mesmer.
Oui. Non, aux États-Unis ou en Angleterre, là, tu sais. Ah même oui, oui. Des livres, là. C'est une femme monoparentale qui a écrit des livres, là, puis elle est passée de manger du Kraft Dinner à du caviar, là.
Ça ben oui, ben quoi? Oui, ben oui. Ça ouais, ça me dit quelque chose, toi.
Oui, oui. Ben oui. C'est que le c'est Harry Potter, là.
Oui, Harry Potter.
Harry Potter, lui, c'est un comédien qui le jouait, là, ça, en vrai. Il s'appelait Daniel Radcliffe.
OK.
Ben, il va jouer. Il va se transformer en nul autre que Al Yankovic.
Al Yankovic.
Oui, c'est qui?
Weird Al Yankovic.
Oui.
Ah, oh, wow.
Ouais.
Un film sur lui?
Oui.
Incroyable.
Oui.
C'est trop cool, ça.
Ouais, ça
j'ai
ça
vraiment
peut,
envie d'aller
ça,
voir ça.
Ça peut être pété. Ça peut être pété. Là, on le voit avec une photo de l'extrait. Ça s'appelle Weird, The Al Yankovic Story. Puis là, on voit ce musicien-là en train de jouer de l'accordéon. Puis...
Est-ce qu'il y a une belle permanente frisée?
Ben,
comme...
Il y a une permanente, il y a une moustache, il y a des grosses barniques.
Ah, c'est drôle, ça.
J'ai hâte de
j'aurais jamais pensé caster cet acteur-là pour jouer Al Yankovic.
Non, mais si je regarde la photo, c'est à s'y méprendre.
OK, bon.
Il y en a un autre, ça s'appelle « I Wanna Dance With Somebody ». Je sais que tu veux danser avec moi, mais il est trop de bonheur.
Ça, c'est le titre d'une chanson connue, ça.
Oui, c'est qui?
Une chanson de... j'ai un blanc. Mais je l'entends, la chanson, là. Je veux pas la chanter, parce que j'ai pas cette voix-là.
Whitney.
Houston.
Bravo.
Et voilà.
Un film sur elle.
Ah, OK. Mais elle est encore vivante aussi. Hein?
Mais non.
Elle est morte?
Oui.
Pour vrai?
Pour vrai, oui.
OK.
Tu niaises-tu?
Non, je niaise okay. pas.
Non, malheureusement, elle est décédée.
Ah, OK.
Oh, oui. Les vedettes, ils durent plus longtemps.
Ah, ça meurt.
Il y a une date. Ouais, c'est ça.
C'est l'obsolescence.
Date d'expiration.
Programmée.
Ouais. Et là, il y en a qui sont en tournage ou en production, dont un qui va s'appeler Madonna. Là, je te laisse deviner de qui ça peut parler.
Ah, ça, selon moi, ça devrait être sur Ginette Renault.
Oui, la Madonna du Québec.
Je savais.
Ouais, la Material Girl. Il y a Piano Man.
Piano Man, mais ça, c'est on l'a déjà vu, ça, non? C'est sur Elton John?
Non, ouais, ça, c'est Rocket Man.
Ah, pardon, Piano Man, ça, c'est l'autre, c'est Billy Joel.
Oui, mais... C'est la vie d'Irvin Mazur. C'est le gérant de Billy Joel.
Oh, OK.
Fait que je sais pas.
Et Palai.
C'est comme si je te... Ça, je trouve ça weird. Mais en tout cas, on va voir. Ouais, ouais.
Si,
peut-être qu'il a poussé. C'est peut-être lui qui disait, hey, joue telle note, ça va sonner mieux.
Peut-être un vécu particulier, des anecdotes.
Il y en a un autre.
OK.
Michael.
OK, continue. Ouais,
qui,
Michel-Ange.
C'est... Le producteur de Bohemian Rhapsody, son CCK, c'était Queen,
ouais.
A décidé que Queen, c'était un gros groupe, mais il a pensé, puis il a convaincu, il a obtenu l'aval des ayants droit de la fameuse famille, je te dis, G5.
Hey boy,
la famille Jackson.
Ah oui, J5.
Michael Jackson. Fait que ça s'appelle tout simplement, ils sont allés loin, on va s'appeler Michael.
OK, donc c'est un film sur Michael Jackson.
C'est sur son gant blanc et les brillants.
OK.
Bien sûr. Chaque brillant est un personnage.
OK.
Ouais.
Ça, mais il y a déjà eu des films sur Michael Jackson.
Ouais.
Même une télésérie dans les années 90.
Mais
je
là,
m'en souviens très bien.
On ne sait pas. Cependant... Si le film va s'intéresser aux accusations portées contre Jackson.
Oui, parce que là, il y a eu des gens. Oui,
il y a eu des documentaires
après
là-dessus. Ouais.
De ses victimes, en fait.
Oui.
Ou présumées victimes, je ne sais pas.
Fait que là, je ne pense pas que les Jackson Familia ont accepté qu'ils vont parler de ce sujet tabou. Anyway.
Oui.
Il y en a un autre qui va s'appeler Fever. Et là, c'est une certaine actrice, Reese Witherspoon, qui produit cette adaptation cinématographique de la vie de Peggy Lee avec Michelle Williams dans le rôle principal. Je ne sais pas ce qui est Michelle Williams. On va le savoir.
Oui, c'est une actrice.
Ouais, j'en doute pas, j'en doute pas, j'en doute pas. Going Electric, ça, c'est quand que Bob Dylan est passé de l'acoustique à the electric guitar. Quand il est passé du folk au rock. Ça peut être bon. Ça peut être...
Ok, mais là, bon. Ça, c'est pas le même film avec Michelle Williams.
Non.
Okay.
Mais ça s'appelle Going Electric, excuse-moi.
Ouais. Mais le film avec Michelle Williams, c'était quoi le titre?
Fever, la fièvre.
C'était sur qui, ça?
Sur Peggy Lee.
Je connais pas.
Une chanteuse...
Ah, OK.
Une chanteuse... Désolé. Pas country, mais rock folk.
Ouais. OK.
Là, je te dis Bob.
Dylan.
Non, ça, on l'a déjà dit, c'est Going Electric.
Ah, ça, c'est Bob Dylan. OK. Bob Barker. Come on down. The price is right.
Fait que c'est une grosse roue. Faut ta spin. Pas trop fort, pas trop fort. Parce que tu veux pas la tourner deux fois. Tu veux pas tomber sur 0 ou 1. Tu veux le 100.
On rit, mais moi, j'aimerais ça voir un film sur l'émission The Price is Right.
Moi, j'aimerais aimé ça aller tourner la roue.
Oui, c'est sûr. Quand on était malade, quand on était petit cul, puis on était malade, on restait à la maison, on écoutait ça.
À l'heure du dîner, c'est à l'heure du dîner.
C'était à 11h, ouais. 11h30, là, ouais. Ça jouait à la télévision.
Moi, j'ai tiré le temps pour tourner à l'école, parce que j'allais manger en face de l'école chez ma gardienne.
Uh-huh.
J'écoutais ça.
Mais non, Bob, Bob, c'est quoi, là, le film Bob?
Ben, je te dis rouge, vert...
Bob Marley.
Yeah.
OK.
Yeah, Russell
reggae.
Perry. Yeah, reggae. Fait que ça va être cool. C'est sur le père, le chef du reggae. Ça va être ça devrait être bon, on se le souhaite là. Mais les biopics
ça peut être décevant par moment.
Ça peut être décevant.
Ouais. Surtout que tu sais tout repose sur l'interprétation de l'acteur qui
joue le
personnage qui a vraiment existé, qui des fois...
Ressens-tu, c'est une caricature.
Comme par exemple le film sur Madonna.
Ouais.
Je sais pas, moi, ça risque d'être...
ça va être sa fille qui va jouer.
Mais ça risque de décevoir bien du monde aussi, j'ai l'impression. Là,
ouais.
Parce qu'elle est encore vivante, puis tu sais, elle a beaucoup... C'est quand même l'histoire récente de la musique.
Ouais, mais c'est sûrement le début de sa carrière, les années 80, la période Material Girl, là, le premier album, Like a Virgin.
Ouais, parce qu'après ça...
Ouais. Fait que ça ressemble à ça, toutes les sorties. Il y en a d'autres aussi. Mais en gros, là, ceux qui m'ont intrigué, c'est pas mal ceux-là.
Ouais, mais c'est vraiment beaucoup de films biopiques, biographiques qui sortent bientôt, ça, là.
Exactement. Ben, ou qui sont en production, ou qui sont...
OK.
Ouais.
Wow.
Ouais.
Ben, il y a comme une espèce de vague soudaine, là, en contrepoids des films de super-héros et de Star Wars, tout ce que tu veux, name it, là.
Au Québec, nous autres, on a sorti l'artillerie lourde, on a sorti Aline.
Ouais, mais c'est un film français.
Ouais.
C'est pas québécois. Mais par contre, moi, l'année passée.
Il y a un acteur québécois dedans, c'est qui fait son.
Ouais, plusieurs acteurs, je pense que. Ouais. Mais l'année passée, j'ai vu un bon film biographique qui était sur Aretha Franklin.
Ouais, c'est film, excellent.
Le film s'appelait Respect, t'as raison, oui, je l'ai dit à Aretha, c'était pas ça du tout. Ouais. Mais moi, j'étais agréablement surpris, puis surtout, j'ai beaucoup appris sur la vie de la chanteuse.
C'est une chanteuse qui joue la comédienne et qui chante dedans.
Qui s'appelle Jessica Houston, je pense.
Ouais,
qui est une
super bonne chanteuse.
Vraiment extraordinaire.
Une bonne comédienne.
Ouais, vraiment. C'est le film, vraiment, elle porte super bien. Mais moi, je suis tombé à bas de ma chaise par l'histoire, le vécu de cette femme-là, Aretha Franklin.
Ouais.
Je connaissais pas du tout. C'est seulement les quelques hits.
Ouais.
Qu'elle a eu dans les années 80, mais même avant ça, en fait. Mais toute l'histoire, le fait qu'elle a eu des enfants en très bas âge, genre comme 13-14 ans, je pense, ça, c'est un volet un peu survolé dans l'histoire, malheureusement.
Ouais, exact,
On peut comprendre aussi, parce que c'est une grossesse non volontaire, non voulue.
Mm-hmm.
Puis aussi tout le lien qu'elle a eu avec Martin Luther King.
Ouais. Les droits civiques aux États-Unis.
C'est ça, sa famille.
Elle est sortie de l'église, elle est retournée à l'église. Son plus grand hit, c'est l'album... là, je pense à Bob Marley Redemption. Là, pas Redemption Song, mais elle est allée faire son plus grand succès commercial et lequel elle était le plus fier, c'est qu'elle est retournée dans l'église. Parce que son père, c'est un pasteur.
C'est ça, exactement.
Un preacher, puis tu sais, le gospel, tout ça. Mais elle est retournée dans l'église après avoir brûlé les ponts avec beaucoup de monde, après avoir connu l'enfer de la drogue et de l'alcool. Mais elle est revenue faire un album dans l'église avec des gens qu'elle connaissait de... son début de carrière.
Ouais.
Et c'est son meilleur album qui a vendu. C'est son plus que des. Plus ouais. que ses hits c'est commerciales. Hit.
Ouais. Puis si je ne me trompe pas, cet album-là est enregistré comme en live aussi.
Oui, dans l'église.
Dans la chapelle.
Ouais.
Puis c'est même considéré, je pense, comme une espèce de pièce d'importance historique dans l'histoire de la musique parce que c'est vraiment des pièces gospel. Qui sont importantes, puis que tu sais, faut enregistrer parce que c'est pas tous les artistes gospel là, qui ont enregistré, c'est pas toutes les chorales qui ont enregistré, qui ont fait des albums. Mais Aretha Franklin, elle a vraiment pris le temps de bien enregistrer toutes les pièces gospel. Puis bref,
ouais,
un autre film biographique parmi d'autres.
Là, mais lui est très bon, très très bon. Là.
Réussi.
Un peu aussi comme celui que je parlais à New York là, récemment, l'espèce de Black Woodstock qu'il y a eu.
Oui, dans Harlem.
Dans Harlem avec...
dans les années...
Sly and the Family Stone.
Ouais.
Tout ça. Fait que c'est ça. Il y a des, si vous vous intéressez à la musique, il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y en a des moins bonnes. Il y en a que c'est ils arrondissent les coins un peu, là, mais ceux-là, Aretha, c'est un sure shot, je pense.
Ouais.
Fait qu'on va y aller en musique. Ça sera pas du gospel, mais nous autres, c'est notre église du rock and roll, made in Québec. C'est nos secrétaires volantes.
Vous écoutez Le Lendemain de la Veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. On vient d'écouter une pièce des Secrétaires volantes, grand groupe local
de Québec. On a commencé le show en parlant de Québec et on a décidé, quand je pense à Québec, je pense à deux artistes, Robert Charlebois, faut que je mette les ailes d'un ange, je partirai pour Québec, et les Secrétaires volantes.
Oui.
L'album Thermoplastique et la pièce, mais elle a un oiseau dans le réacteur.
OK, c'est bon.
En parlant de réacteur, j'ai réagi assez fort à cette bande dessinée que j'ai entre les mains.
Oui.
Parce que j'ai fait le contraire. Habituellement, je vais lire le livre, je vais regarder le film après. Là, je prends une bande dessinée à m'intrigue. Ça s'appelle Château de sable. Je commence à la lire. C'est de Frédéric Peters et Pierre-Oscar Lévy. Et je commence à la lire et ça me fait souvenir à un scénario de film. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est que j'ai le scénario, Château de sable, le titre, et le titre du film.
Qui est adapté au cinéma par M. Night Shyamalan.
Oui.
Le film s'appelle Old.
Oui, avec Gael Garcia
Bernal.
Bernal, l'acteur mexicain très connu. Super film, j'en avais déjà parlé avec Paula, ma copine. On avait aimé ça, mais on avait des bémols. Puis, j'ai lu la bande dessinée. Je ne savais pas que ça venait de ce film-là, de ce scénario-là. Et la bande dessinée est superbe. C'est en noir et blanc. On rentre dans l'histoire. Il y a des choses qui ne sont pas expliquées dans le film. Il y a plus de personnages dans la bande dessinée. Super belle bande dessinée. Et je l'avais laissé traîner et ma copine l'a lu. J'avais pas dit, j'en ai même pas parlé, elle l'a lu, elle l'a adoré, puis elle a dit « Hey, c'est la bande dessinée du film? » J'ai dit oui. Fait que c'est je vais pas raconter le scénario, mais...
Juste la prémisse, peut-être?
Ouais, la prémisse, donner, ouais. La prémisse, c'est que c'est des gens qui sont en vacances, ils vont à une plage qui paraît qui est la plus belle plage, la moins connue, c'est un paradis sur Terre, là. Tu sais, quand t'es en voyage, tu veux aller où est-ce que personne n'est allé avant toi. Et ils vont là, il faut qu'ils passent à travers comme une espèce de buisson, une espèce d'enclavure de roche. Et là, tu arrives à la plage. Moi, ça me fait penser comment ça a été décrit aux plages un peu au Portugal, en Algarve. C'est que c'est des roches et là, tu traverses les roches et tu vois une plage incroyable en sable blanc, puis tout ça. Et là, quand tu rentres à cette plage-là, mystérieusement... tu commences à vieillir.
Oh!
Et là, tu t'en rends compte, tu essaies de sortir de la plage par le même passage que tu es arrivé. Et là, tu as une espèce de... on ne sait pas si tu me décharges, on ne sait pas si tu as une faiblesse, un manque de souffle, tu t'évanouis, puis là, tu te réveilles, puis tu vois que tu ne peux pas aller plus loin, fait que tu retournes sur tes pas.
Mm.
Fait que c'est une histoire qui se passe dans l'espace de 24 heures.
Oh.
En 24 heures, c'est comme si tu accélérais ta vie... 2 fois 5 fois 10 fois 15 fois 20. Ça part, les secondes deviennent des minutes deviennent des heures.
OK, c'est comme exponentiel. Ouais, plus ça avance, ouais. Plus ça va vite. Ouais. Oh, ça fait peur.
Commencez par le livre Château de sable, Frédéric Peters, Pierre-Oscar Lévy. C'est merveilleux.
Ah ouais?
Merveilleux.
Okay.
Je te la passe.
Ben, je trouve ça le fun aussi que le titre...
C'est un one-shot, hein? c'est pas une série.
Ouais.
Tu le lis, puis tu sais, le film finit d'une manière, la bande dessinée finit d'une manière, il y a une ouverture, mais en même temps...
OK.
Il y a comme un conte philosophique, puis il y a comme une critique sociale sur bien des affaires. Puis à l'intérieur de la bande dessinée, qu'est-ce qui est très différent du film, c'est qu'il y a un personnage qui connaît la légende, l'espèce de légende de cet endroit-là, mais qu'il ne le savait pas vraiment. Fait qu'il commence à raconter une histoire. Et là, il réalise qu'il y a comme une métaphore entre le mythe et ce qu'ils sont en train de vivre, eux, les touristes de cette plage-là. Parce qu'ils sont à peu près une dizaine. Des jeunes, des moins jeunes, des couples, des enfants... même un petit animal de compagnie. Fait que, lisez ça, c'est une belle lecture d'été. Ça se passe à la plage, un château de sable.
Oui, c'est ça, c'est une belle BD, aller sur le bord de la plage. Question d'angoisser un peu plus.
Exactement, sur la vie. Crise existentielle.
Le temps qui passe trop vite.
Vite, ouais.
Les choses qu'on n'a pas le temps de vivre.
Les enfants qui grandissent trop vite.
Oh my God.
C'est tout ça dans un tome.
Donc, de Frédéric Peters et Pierre-Oscar Lévy, Château de sable. Et ensuite, aller voir le film Old de M. Night Shyamalan.
Et tu prononces bien ça.
Avec Gael Garcia Bernal.
Oui, très bon acteur.
Donc, il reste un gros 5 minutes à l'émission. Est-ce qu'on y va en musique?
On y va en musique, puis si on venait, on verra ça, on peut dire des affaires. Là, je vous emmène, quand moi je pense à plage, je pense au Portugal. Mais quand je pense à plage, je pense aux plages du Brésil.
Do permanente, teu cabelo é de sereia. E a pergunta que sai da minha escola é o peixe que te penteia. Quando tu entra na roda, teu corpo bamboleia. Minha nega, meu amor, qual é o peixe que te penteia? Teu cabelo, a couve, proteína, o que me tonteia? Minha nega.
kamie łamu pole opeczki ci pękę, ja nie zamknę, ja prawie fogo no niż mężany na ryja, to ma bani bata w okole opeczki ci pękę, ja nie gadam kabielu duro, kole opeczki ci pękę, ja kole opeczki ci pękę, ja kole opeczki ci pękę, ja nie gadam kabielu duro, kole opeczki ci pękę, ja kole opeczki ci pękę, ja kole opeczki ci pękę, ja cabelo é de sereia e a pergunta que certamente qual é o peixe que te penteia. Quando tu entra na roda, teu corpo bamboleia. Minha nega, meu amor, qual é o peixe que te penteia? Teu cabelo a cobertor, tenho o quê que me tonteia. Minha nega, meu amor, qual é o peixe que te penteia? Visa fria, pega em fogo, não desmancha nem na areia. Toma banho e bota fogo, qual é o peixe que te penteia? Nega do cabelo duro, minha nega, qual é o peixe que te penteia? Qual é o peixe que te penteia? Qual é o peixe que te penteia? Nega do cabelo duro, minha nega, qual é o peixe que te penteia? Qual é o peixe que te penteia? Qual é o peixe que te penteia?
Vous écoutez le lendemain de la veille sur les ondes de CKUT 90,3 FM. Marc-André, peux-tu me dire qu'est-ce qu'on vient d'écouter, cette belle musique tropicale?
Tropicale directement du Brésil, gosto do Brasil, Planète do Hemp. Planète Hemp. Les gars, c'est des Brésiliens de Carioca, de ouais. Rio de Janeiro. Et dans le temps que le weed n'était pas légal, tout ça, ils ont... Il regardait des noms, puis il y avait un commerce supposément au Canada, je ne sais pas où au Canada, qui s'appelait Planet Hemp, ou qui vendait des produits à base de chanvre.
Okay.
Ils ont pris le nom là.
De la boutique canadienne.
Oui. C'est ça la légende. Et là, j'ai le troisième CD dans les mains. Et la pochette est fascinante. J'ai le poster. Je les ai connus quand je suis allé au Brésil, puis j'ai trippé solide. Toi aussi, tu as trippé solide là-dessus. Ils mélangent deux affaires qu'on adore, du hip-hop, du rap. Et
le beurre d'arachide.
Du beurre d'arachide, oui.
OK, excuse-moi. Ouais. Les pop et le hardcore.
Oui. C'est les Beastie Boys brésiliens de là-bas, avec un côté très hardcore, et c'est Marcelo Dedos, comme R2-D2. Lui, c'est Dedos, D2. Et c'est lui le chanteur, rappeur. Il était deux chanteurs au début, mais c'est lui la tête qui est parti maintenant en solo. Et l'album, c'est... Là, mon Brésilien, ce matin, là, pardonnez-moi. Oscar es ladram mas a caravana não para. En gros, c'est que la caravane passe, puis les chiens y aboient, une affaire de même. Mon portugais, il est mix. La pochette est vraiment cool, puis dans le spine, t'as, qu'est-ce qu'eux, ils appellent un maconde, une balle. Ça ressemble à une balle, mais c'est un joint de marijuana, et l'autre bord, une balle. Et là, t'as un ministre qui a une gueule vraiment pas...
De bulldog,
exactement. Puis t'as pas vu le derrière de la pochette. C'est un bulldog comme enragé, tout ça. Et à l'endo, qu'est-ce qu'on a?
Un vrai bulldog.
Un boxeur avec les babines par en bas.
Donc le politicien qui est sur le devant, c'est vraiment un politicien brésilien?
Ben, c'est un homme d'affaires, là.
Ah, ouais, okay.
Whatever. Fait que l'histoire le dit pas, mais il y a comme une comparaison. Fait que regarde, quand tu ouvres la pochette, les deux, t'as ça. Puis quand tu ouvres la pochette, t'as les favelas de Rio, t'as le pain de azúcar. Et on me dit à l'instant que mon temps est écoulé.
Il reste plus de temps, Marc-André.
Mais écoutez, Planet M, c'est tellement sunshine reggae que vous allez triper en conduisant cet été. Planet M.
Merci beaucoup, Marc-André. On se revoit la semaine prochaine.
Oui, sur les vacances de l'été.
Restez sur les ondes de CKUT 90,3 FM.
Bye. See you later.
Politica is thrilled to announce the theatrical release of Dear Jackie, a feature documentary by Henri Pardot. The film opens on June 17 in 4 theaters in Montreal: Cinéma Public, Cinéma du Musée, Cinémathèque Québécoise, and Cinéma Moderne, with the director and special guests in attendance at select screenings. Dear Jackie poetically tells the story of one of the oldest black communities in Canada, Montreal's Little Burgundy, by way of a cinematic letter to Jackie Robinson, the first black man to break the color barrier in professional baseball. It also masterfully connects history to the present by challenging the myth of a post-racial society. This release is co-presented by Desta Black Youth Network, Tyndale St. George's Community Center, Canteen Bergs, and Makisia Solo. For more information and tickets, visit cinemapolitica.org. We hope to see you there. This is a CKUT co-presentation.
Lorsqu'on ne paye pas pour un produit, on est le produit. Particulièrement dans le cas de l'hébergement des courriels et des sites web où les compagnies multinationales se battent pour les profits produits par les magnifiques communications de vos organisations. Kumbit est une coopérative de travail qui essaye d'aider les petites organisations ou les particuliers à se réapproprier leurs communications par l'hébergement de courriels et de sites web ainsi que par la création de sites web. Si c'est votre désir, contactez-nous à kumbit.org ou par courriel à